en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Le mercredi 25 janvier 2006, à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts, avait lieu la réception par Monsieur Henri Loiret de l'Académie des Beaux-Arts de Monsieur Marc Ladret de La Charrière, élu membre de la section des membres libres au fauteuil précédemment occupé par Gérald van der Kem. Vous allez tout d'abord entendre le discours de réception par Monsieur Henri Loiret, puis l'éloge du prédécesseur prononcé par Monsieur Marc Ladret de La Charrière. Élu le 9 février 2005 à l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil précédemment occupé par Gérald van der Kemp, Marc Ladret de La Charrière, né le 6 novembre 1940, est fondateur et président du groupe Fimalac, financière Marc de La Charrière. Homme de l'art, Marc Ladret de La Charrière a manifesté constamment depuis la création de Fimalac en 1991 le souci de faire participer son entreprise à la vie culturelle de la France, attaché à la défense du patrimoine culturel de notre pays et à son rayonnement international. Il a conclu en 1995 un accord de partenariat avec le département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre. Ce mécénat a notamment permis la restauration en 1997 du gladiateur Borghese, chef-d'œuvre de la collection Borghese, et de la Vénus Génitrix. Le mécénat culturel de Marc Ladret de La Charrière s'est également orienté vers le domaine du théâtre. Fimalac est en effet membre fondateur de la Fondation Jacques Toja, du nom de l'initiateur du projet, grand interprète du théâtre français, administrateur général de la Comédie française. Marc Ladret de La Charrière préside aussi la Revue des Deux Mondes, fondée en 1829, la plus ancienne revue d'Europe. Et enfin, il siège au Conseil artistique des musées nationaux aux côtés de ses confrères Henri Loiret, Michel David Veil et Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Marc Ladret de La Charrière est également membre du Conseil d'administration du Musée du Louvre. Nous le retrouvons maintenant sous la coupole. Il était accueilli par le discours de M. Henri Loiret, président-directeur du Louvre.
Monsieur, en juin 2004, nous inaugurions au musée du Louvre une nouvelle présentation des antiques dans la salle du manège. Une salle de plus dans un musée qui grandit, s'ajuste, conquiert de nouveaux espaces, en restaure d'autres, renouvelle sa présentation. Un pas de plus dans cette évolution organique qui voit le musée s'installer et prendre ses aises dans le palais des rois, des empereurs et des ministres des Finances. Et cependant, dans cette très belle salle, conçue par le Fuel pour l'exercice des chevaux de Napoléon III, un événement particulier. Une réunion de sculptures pour la plupart jamais montrées. L'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire du goût. Un aménagement rendu possible grâce à votre mécénat, monsieur, et à celui de la société que vous dirigez, Fimalac. On pourrait donc dire que vous entrez dans notre compagnie grâce à la salle du manège, à la restauration précédente du gladiateur Borghese et de la Vénus Génitrix, grâce au soutien que vous apportez à l'Union centrale des arts décoratifs, au Théâtre du Rond-Point, à la Fondation Jacques Toja, à la Fondation du patrimoine, sans omettre la charmante chapelle romane de La Charrière dans le Vivarais. La liste n'est pas exhaustive, qui vous poserait devant nous en entrepreneur avisé, balançant harmonieusement entre le culturel et l'humanitaire, regardant à droite, regardant à gauche, dispensant des aumônes souvent munificentes à ces nécessiteux que sont tant ces fondations aux visées généreuses que l'État. Et l'homme arrivé soignerait ces nouveaux pauvres avec autant d'ardeur et de compassion que le jeune homme bien né, mais fauché, portait comme il se doit des boîtes de sardines aux petits vieux. Non, ce n'est pas cela, mais c'est vous tout entier que nous accueillons, une carrière et une réussite. Et cette carrière et cette réussite nous enseignent que votre intérêt pour les choses de l'art n'est pas né des caprices de la fortune, qui à d'autres permettent les safaris, les femmes et les belles bagnoles, mais d'un enthousiasme natif, de l'héritage familial, du produit d'une éducation, d'une réflexion construite sur le rôle et les devoirs du citoyen. Soutenir le Louvre ou la Fondation Agir contre l'exclusion n'est pas la danseuse ou la libide d'un homme riche, mais le développement naturel, autorisé par la fortune, d'une pensée et d'une ambition. Si d'emblée j'ai évoqué la salle du manège, c'est qu'elle explique à merveille les raisons de votre engagement. Dans les modalités de sa rénovation d'abord, vous l'avez financée entièrement, participant ainsi, parce que vous le trouvez exemplaire, à ce nouveau rapport que l'État, pour nous le ministère de la Culture, a voulu instituer avec l'entreprise. Je me souviens d'un temps pas si lointain où tout devait venir de l'État. Il suffisait d'ouvrir la bouche pour recueillir la manne bénéfique. On gobait les subventions comme une chose due, se plaignant naturellement de leur insuffisance. Quant à mesurer l'usage qui en était fait, on se serait sans doute indigné d'une légitime évaluation, mais personne ne demandait des comptes. Les débuts du mécénat furent donc pénibles. Dans un système si tranquille, si parfait, que venaient apporter ces chefs d'entreprise ? Qu'avaient-ils à se reprocher ? Quelle manœuvre souterraine et nécessairement douteuse conduisait ces libéralités ? Il fallut du temps, un apprivoisement mutuel, des expériences réussies. Il fallait surtout l'action déterminante de l'État, des dispositifs fiscaux favorables, récemment parfaits par Jean-Jacques Ayagon, son engagement personnel, celui de Renaud Donnedieu de Vabre, pour que l'une et l'autre partie mesurent leurs intérêts respectifs. C'est grâce à vous, à cette générosité naturellement étayée par vos convictions, grâce à nos confrères André Pétancourt et Michel David Veil, grâce aussi à mon prédécesseur Pierre Rosenberg qui sut vous attirer au Louvre, qu'aujourd'hui nous avons fait ces avancées décisives. Mais la salle du manège rénovée nous dit sur vous autre chose encore. Cette salle, il faut le rappeler, est consacrée à l'histoire des collections d'antiques, traçant une histoire du goût et de ses aléas. Elle rassemble des sculptures provenant de collections illustres, celles de Richelieu, de Mazarin, de Louis XIV, de Scipion et Marc-Antoine Borghèse, d'Alexandre Albani, témoignant de cette passion pour l'antique, voire de cette antiquomanie qui, depuis la Renaissance, inspira tous les arts. Vous avez rendu possible une réunion inédite qui ressuscite, certes affaiblie, d'œuvres heureusement restituées à l'Italie, ce colloque qui, sous l'Empire, fut tant admiré du jeune Schopenhauer. Lorsqu'on entre pour la première fois dans la salle des Antiquités, notait-il dans son journal, on ne sait par où commencer. Toutes ces pierres vivantes semblent s'animer, tous les dieux de l'Olympe vivent encore ici et s'y trouvent comme il y a plusieurs siècles, regardant tout autour d'eux, avec un regard paisible, la fuite du temps. Car le temps fait tout à l'affaire, qui métamorphose ces antiques, leur donne avec l'intervention d'autres artistes des prolongements inattendus, des formes nouvelles, bouleverse leur signification. Par la jonction d'une vasque de porphyre, un vieux pêcheur, réplique romaine d'une œuvre hellénistique, se transforme au XVIIe siècle en un Sénèque mourant. Le Bernin conçoit un matelas pour l'hermaphrodite endormi. Nicolas Cordier, raboutant les fragments d'une Artémis romaine, ajoutant des bras, des pieds, une tête en bronze, compose sa délicieuse et aberrante Zingarelle. Exemple extrême, dira-t-on, de la postérité d'une œuvre d'art. Mais ce qui est vrai, comme chacun le sait, pour l'architecture habitée, donc constamment adaptée, vivante de la vie de ses occupants, subissant les saisons, les variations climatiques, bref, tout ce que l'on a coutume d'appeler bêtement les ravages du temps, quand c'est le signe même d'une vivacité toujours contemporaine, est vrai pour toute création, la peinture, la sculpture, les objets comme les œuvres littéraires et musicales. C'est une banalité aussi que de dire que l'œuvre d'art échappe à son créateur. Elle est aussitôt happée par le temps impassible, et le flux incessant et mouvant des hommes. Elle peut avoir des faiblesses et des sursauts, briller d'un éclat continu, sombrer corps et biens. Elle peut, que l'on songe à la tour, que l'on songe à Vermeer, être longtemps réduite à son seul souffle, à sa seule flamme, pour ranimer par le regard et la science de quelques-uns, connaître une gloire nouvelle et jamais atteinte. L'art est toujours contemporain. Et pour revenir à notre musée, le Louvre est un musée d'art contemporain au même titre que le Centre Pompidou. Et les œuvres de Poussin, Ingres, Degas, Manet, quatre peintres français qui me semblent particulièrement présents aujourd'hui, sont de notre temps, d'actualité, autant que les créations les plus récentes d'artistes vivants. C'est que toute grande œuvre, indépendamment de son exposition, de sa parution ou de son exécution, vient de loin et voit loin devant elle. Le temps d'une œuvre d'art n'est pas seulement celui de sa création. La recherche du temps perdu ne se fixe pas dans un cadre étroit des débuts de la Troisième République au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui est celui de son auteur et de ses personnages, mais remue une fois encore les cendres de Sodome, éclaire les temps mérovingiens et se poursuit très avant dans la nuit. Avec Le Déjeuner sur l'herbe, avec Olympia, Manet s'inscrit dans une tradition réaliste et salue en Giorgione, en Titien, d'heureux précurseurs. 300 ans avant lui, de grands maîtres, eux-mêmes méditant le modèle antique, ont cherché à mêler le nu au costume contemporain, à portraiturer dévêtu une courtisane. Et c'est le temps, l'éloignement dans le temps, la patine du temps, qui transforme une partie carrée dans la campagne vénitienne en concert champêtre, l'Étaïre renaissante en Vénus d'Urbain. C'est cette méditation sur les effets du temps qui révèle à Manet qu'il ne s'abîme pas dans des scènes grivoises et précaires, mais qu'il peut ambitionner, avec ses sujets modernes, le format et la manière ample des peintres d'histoire. L'artiste s'invente une filiation, parfois aussi fabriquée que celle de ces nobles romains qui, par les efforts d'un archiviste stipendier, se raboutaient aux consuls antiques. Dressant sa propre généalogie, il ne craint ni les mésalliances, ni les métissages. Ingres descend tout droit de Raphaël. Degas naît de l'union contre nature d'Ingres et de Delacroix. Manet se pose en héritier de Titien, non pas descendant légitime, contrairement à nombre de ses confrères académiques qui ont hanté cette assemblée, fiers de la pureté de la race, mais épuisés par une succession de mariages consanguins, mais en rejetant d'une branche cadette, souvent abâtardie, et s'égarant dans d'obscures parentèles. Car à Titien, il a adjoint la manière espagnole, les leçons de Courbet, la crudité des photographies érotiques, la naïveté des images populaires, les aplats du japonisme. De nos jours, Anselme Kiefer, organisant tout un système, comme on dit système solaire, fixant des constellations qui naissent de la cendre, du sperme jauni, de l'éclat de la peinture projetée, fait entendre, harmonieuse et lointaine, la musique des sphères. Comme Hésiode, il construit une théogonie et emprunte au poète grec sa généalogie primordiale. Son œuvre est fille de nuit, elle-même fille de chaos, ce chaos tout proche, celui de la barbarie nazie, qui massacra les hommes, ruina les monuments splendides et dévasta les paysages ravissants et fragiles. L'éclat d'une œuvre d'art se mesure, comme l'élection divine des prophètes bibliques, à sa fécondité, à une postérité aussi impossible à dénombrer que le sable du désert ou les étoiles du firmament. Promesse, promesse d'autant plus admirable que l'œuvre suit souvent de longues périodes de stérilité et naît toujours du doute. Cette postérité se dessine lentement, rassemble progressivement ses troupes, renverse les puissants d'un jour, apaise ce qu'il y a d'aigu, de discordant, de violent dans la modernité. Innombrables en sont les acteurs qui remplissent des rôles divers, artistes, collectionneurs, historiens, conservateurs, restaurateurs, tous ceux qui regardent, qui écoutent et qui lisent. Vous êtes, monsieur, au même titre que de plus illustre et de plus évident, un de ces acteurs du temps et un tout premier rôle. Mécène, vous favorisez la survie et la transmission du patrimoine. Vous soutenez la recherche, comme le montre votre appui aux expositions Porphyre et bientôt Praxitèle. Le passé n'a de sens pour vous qu'éclairé au feu de la vie contemporaine. Collectionneur, vous le montrez dans l'éclectisme de vos choix, soucieux de rapprocher toujours l'ancien et le contemporain. Homme d'affaires, vous créez de toutes pièces Fimalac, mais vous reprenez pour les revivifier d'anciennes et glorieuses maisons comme Masson, Cassini ou la Revue des Deux Mondes. Car rien ne vous plaît tant que ce rôle de refondateur, ou méditant les exemples anciens, soucieux de vous inscrire dans une lignée, vous trouvez d'emblée votre juste place. Et si le Louvre est bien cet immense palimpseste de la mémoire que voyait Baudelaire, c'est qu'il rassemble le peuple immense de ceux qui ont cherché, de ceux qui ont créé, mais aussi collectionné, restauré ou simplement transmis. Avec le temps, en effet, l'œuvre prend une densité nouvelle et son aspect se modifie. Elle passe en diverses mains avant de se fixer le plus souvent dans un musée. Les couleurs pâlissent, le papier jaunit, le marbre perd de son éclat, les bronzes se patinent. Précieuses alluvions du temps, qu'il ne faut retoucher qu'avec respect et précaution, se gardant bien de vouloir rattraper une jeunesse trompeuse. Pour une restauration attentive, combien d'architectures asséchées, de tableaux récurés, liftés, botoxés, de fresques évanouies, d'icônes quasiment réduites à leur seul support quand elles ont vécu pendant des siècles au rythme des repeints qu'exigeait la dévotion des fidèles. De ce point de vue, la salle du manège est exemplaire, comme l'était auparavant la restauration du gladiateur Borghese. On vous doit, monsieur, cette restauration, et vous participez ainsi à l'histoire de cette œuvre, un signe, tout comme Nicolas Cordier, qui sans doute en 1611 la restaura, les Borghese qui la possédèrent, Napoléon qui l'acheta, Winckelmann qui l'inventa et tant d'autres qui la commentèrent. Winckelmann la disait raflée par Néron en Grèce avec l'Apollon du Belvédère, découvert lui aussi près d'Anzio. La statue d'Apollon, nous dit-il, est le plus haut idéal de l'art parmi toutes les œuvres antiques qui ont échappé à la destruction. Un printemps éternel, comme celui qui fait le bonheur de l'Élysée, habille d'une séduisante jeunesse l'exquise virilité de la maturité et répand douceur et tendresse sur l'orgueilleuse architecture de ses membres. Tout différent, le gladiateur, qui n'est pas une expression du beau idéal, mais un homme réel, un portrait, ou pour reprendre les termes de Winckelmann, un concentré des beautés de la nature dans les années de maturité, sans ajout de l'imagination. Car il représente, ajoute-t-il, un homme qui n'est plus dans la fleur de la jeunesse, ayant atteint l'âge viril, et l'on y découvre les marques d'une vie qui fut toujours active et durcie par le labeur. Voilà, nous y sommes, les marques d'une vie active, le goût du combat, l'équilibre seulement trouvé dans le mouvement et le mouvement perpétuel. Comme le gladiateur, auquel il est alors plus juste de donner son vrai titre de héros combattant, vous tombez si vous vous arrêtez. Vous êtes là, toujours là, terriblement présent. Vous êtes au monde et heureux d'y être. Non pas agité, même si l'on vous appelle drôlement l'agitateur à particules, car il n'y a rien de désordonné dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, mais actif, vibrionnant, incessant. Cet activisme, marqué dans votre volubilité, votre remuement constant, touche tout ce que vous faites. Ainsi, vous êtes collectionneur. Vous accumulez dans tous les domaines, au hasard de vos goûts et de vos bonnes fortunes. À vrai dire, c'est vous-même que vous exposez dans ces objets si divers et qui, comme vous le dites, vous prolonge et vous explique. Livres et sculptures, art africain et école de Paris, De Gaulle et Marie-Antoinette, Boudin et Soulages, et grâce à Véronique, l'art contemporain. Vous croyez, comme Balzac, à l'intelligence des œuvres d'art. Ils connaissent les amateurs, ils les appellent, ils leur font « shit, shit », remarquait le cousin Ponce, ce que vous traduisez en disant simplement « il faut que l'œuvre me parle ». Vous souhaitez aussi vous entourer d'œuvres qui vous rappellent des lieux que vous aimez, et là, vous rejoignez Proust. Si j'étais riche, je ne chercherais pas à acheter des chefs-d'œuvre que je laisserais au musée, mais de ces tableaux qui gardent l'odeur d'une ville ou l'humidité d'une église et qui, comme des bibelots, contiennent autant de rêves par association d'idées qu'en eux-mêmes. Mais si je retenais deux objets qui, dans tout ce que vous avez rassemblé, vous dépeignent, je choisirais d'abord ce torse d'Héraclès enfant, très beau fragment de marbre, qui est dans votre bureau, et sa puissance latente et en devenir. Cette œuvre évoque, comme le montre votre soutien répété au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, votre amour de l'antiquité classique et de la sculpture. Parce que l'art gréco-romain, expliquez-vous, est le berceau même de notre civilisation. De plus, il rejoint ce goût que j'ai pour l'art statuaire. J'ai toujours aimé la sculpture, j'aime la regarder, la toucher, cette façon qu'elle a de dompter la matière. Avec cette sculpture que vous voyez donc ancestrale, impérieuse, dominatrice, je lirai un objet dans votre chambre qui est par son étrangeté presque une œuvre d'art. Une grande boîte vitrée qui contient quelques bras articulés en constante rotation, un mouvement rond et tranquille et sur lesquels sont accrochées des montres, de celles qui ne se remontent que par l'agitation de la main. Elles sont là, toujours disponibles, toujours laborieuses, toujours à l'heure, n'ayant droit à aucun repos à l'instar de vous-même, de ceux et celles, j'imagine, qui vous entourent et qui sont entraînés dans ce tourbillon perpétuel. Une belle métaphore de votre existence, depuis ce 6 novembre 1940 qui vous vit naître en pleine guerre donc. Vous êtes issu d'une vieille famille de l'Ardèche, de ces familles qui, tardivement anoblies, ont toujours été au contact d'une bourgeoisie industrielle et industrieuse, dont les membres ont exercé des métiers et dont l'illustration tient plus à la situation de ces individus qu'à l'ancienneté du nom, à l'éclat de la fortune, aux belles alliances. Vous aviez donc d'emblée, même si elle était fragilisée par le manque d'argent, une position dans le monde. Et quand tant de nos glorieux d'aujourd'hui peinent à établir une dynastie, car le modèle aristocratique perdure, vous pouvez montrer la profondeur de vos racines. L'ouvrage consacré à votre famille, Les Ladrets de la Charrière, 750 ans d'histoire, sous-titré de votre énigmatique devise, tout droit quand même, peut ouvrir ainsi. L'arbre familial enfonce ses racines dans le terroir boutiéreau, réputé être le pays le plus vivarois de tout le Vivarais. Un début à la Barbelle ou Revilly, incompréhensible et troublant pour qui n'est pas boutiéreau. La particularité de cet arbre séculaire est que les branches les plus robustes sont à son faîte. Au XIXe siècle, vous pouvez rameuter deux députés de l'Ardèche, un préfet, un général, un président du tribunal civil de Privas, un médecin célèbre, Jules Ladret de la Charrière, spécialiste des questions otologiques. Ce capital familial, vous avez su le faire fructifier. Il vous inscrit dans une tradition et vous rappelle des devoirs. Vous oblige sans doute, quoique je ne comprenne pas bien ce que cela veut dire, à rester tout droit quand même. S'agrège à vous votre nom, votre position et complète votre portrait. Homme d'affaires, homme du monde, mécène, partout introduit, connaissant tout le monde, au siècle et au jockey, ayant tout ce qu'il faut de décoration et d'honneurs divers, d'amis illustres et bien placés, de relations de tous bords, bref, un échantillonnage incomparable de toutes les gloires d'ici-bas. On vous envie, et vous le savez, et pour toutes sortes de raisons, qui pour la fortune personnelle et persistante, qui pour la particule vérifiée quand la sienne est incertaine, qui pour cette capacité à aller de l'avant sans cesse quand tant d'existences prometteuses s'assèchent vite et se renfrognent. Je ne sais ce qui vous a mis, une fois pour toutes, en mouvement. Peut-être la mort de votre père quand vous aviez 15 ans, au moment où on en a le plus besoin. Peut-être le sang italien et artiste de votre mère. Peut-être et surtout cette nécessité d'avoir à se battre très tôt, de gagner sa vie avec des petits boulots, de figurer dans un milieu friqué. Ma famille, avez-vous dit, a la particularité d'être engagée dans la fonction publique depuis toujours. Jamais à des postes très importants, mais jamais absente des problèmes de son temps. C'est donc dans une tradition que vous vous inscrivez en entrant à l'ENA, poussé par vos oncles juristes et diplomates, René et Guy de la Charrière. Mais à la sortie, vous en démissionnez aussitôt, refusant la direction du Trésor pour entrer à l'échelon le plus bas, celui de démarcheur à Suez. On a dit que vous aviez pris cette décision par dépit de n'être pas dans les 5 premiers, comme plus tard on dira que vous avez quitté L'Oréal par dépit de vous voir préférer Lindsay Owen-Jones. Mais ce ne sont pas là vos ressorts. vous en expliquerez d'ailleurs. J'ai senti très tôt que j'étais plus un homme de terrain, doté d'un esprit d'entreprise, qu'un rédacteur de notes pour un chef de service dans un ministère. Très répandu et pourtant avare de confidences, peu soucieux d'écrire ou de faire écrire des romans, des livres d'histoire, des constatations désabusées sur le monde d'aujourd'hui, votre carrière littéraire se limitera à quelques sentences dispensées par voie de presse. Je n'aime pas l'exclusive en politique et je me considère moi-même comme un homme de droite mais qui a des amitiés à gauche, ou encore j'ai toujours eu une extrême conscience de l'ouverture internationale et de sa nécessité. Il faut donc vous juger sur vos actes, et vos actes, il faut bien le dire, témoignent de cette habileté, de cette ouverture. Vous êtes donc devenu cet entrepreneur indépendant, libre et anticonformiste, ainsi que vous auriez souhaité résumer votre notice dans un vous-vous imaginaire. De 1976 à 1991, votre vie, c'est L'Oréal, auprès de Liliane et André Bettencourt, auprès de François Dalle, qui fut avec Jacques Française votre mentor. C'est aussi en parallèle, pendant cette époque L'Oréal, que se déploie l'activité d'un homme d'affaires indépendant, ce que d'aucuns ont appelé votre double vie et qui préfigure les entreprises futures. Au milieu des années 1960, vous fondez le journal Mademoiselle, bientôt repris par Daniel Philippaki pour devenir Mademoiselle Âge Tendre, toute une époque. En 1974, vous achetez avec un cousin de votre femme les éditions Masson et 15 ans plus tard, Belfond, un de vos rares échecs, et Armand Collin. Et en 1991, commence l'aventure Fimalac. Je ne la tracerai pas, car tout ce que vous faites dans ce domaine m'est difficilement compréhensible. Je sais seulement que vous réussissez, que vous avez fondé ce qu'on appelle un empire, étendu et composite, que vous cédez rarement du terrain et que vous agrandissez d'année en année vos apanages. Vous créez la troisième agence mondiale de notation, Fitch, le deuxième stockeur mondial de produits chimiques, LBC, le premier outilleur européen, Facom, reprenez Cassini, admirable entreprise de mobilier et de design. Quand tant de fortunes personnelles ont été construites avec l'argent des autres, et en particulier celui de l'État, vous ne devez la vôtre qu'à vous-même, à Véronique, à vos quelques collaborateurs. Vous houspillez l'État, les pesanteurs administratives, l'apathie des fonctionnaires, les certitudes bornées des politiques. Tout le monde en prend gentiment pour son grade, mais vous acceptez la France. Et quand tant d'autres prennent prétexte de ce que vous dénoncez pour s'exiler à Londres ou Bruxelles et y couler des jours fiscalement heureux, vous restez ici. La France est un pays merveilleux, dites-vous, où l'on peut parfaitement réussir. C'est aussi un pays où l'on exhibe les échecs et où l'on tait les réussites. Vos proches en témoignent. Vous manifestez l'audace obligatoire au service de la République, a noté Philippe Séguin, vous remettant les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Vous croyez surtout à des valeurs simples qui se résument en des mots simples. La République, le travail, la générosité, la France, a renchéri Laurent Fabius en vous remettant les insignes de commandeur. Je ne sais qui, répondant à l'alternance, vous remettra les insignes de grand officier, mais j'aurais réussi la prouesse avec vous, tout n'est-il pas possible de citer dans une seule phrase les deux amis qui vous bordent politiquement. La générosité, la France, c'est ce qui conduit votre mécénat. Il est multiple, à votre image, mais s'inscrit dans deux directions. Ce que vous appelez d'une part la conscience citoyenne, de l'autre l'engagement culturel. Dans le premier lot, on rangera la fondation Bettencourt-Schueller, dont vous êtes administrateur trésorier, et qui a pour but de participer au maintien et au développement de l'action culturelle, économique et humanitaire de la France, mais aussi la Fondation de la Deuxième Chance, le prix de la réussite des Français venus de loin, la Fondation Agir contre l'exclusion, lancée par Martine Aubry, le prix de l'audace créatrice que vous avez fondée et que vous présidez. Membre du conseil d'administration du Louvre pendant 6 ans, vous avez compris que le musée, s'il est avant tout un lieu de plaisir et de dilection, joue de plus en plus dans la cité un rôle social. Il doit enseigner, éduquer, intégrer, apprendre à la lumière de tant de civilisations en constant dialogue, la tolérance. J'ai déjà évoqué votre mécénat culturel, ce que vous faites pour les musées, en particulier pour le premier d'entre eux. On y ajoutera le théâtre, qui est une de vos passions, la Fondation Jacques Toja et le Théâtre du Rond-Point. Votre mécénat est généreux et discret. Vous n'intervenez pas dans les projets que vous patronnez. Vous êtes là, tout simplement, à nos côtés. Toujours, vous favorisez l'audace, les jeunes talents, la création et l'initiative, l'esprit d'entreprise. Vous avez aussi le goût des choses qui tombent. Vous restaurez des monuments en péril, vous reprenez des affaires qui ne sont plus que des noms. Je ne sais si c'est pour cette raison que vous venez parmi nous, mais c'est ce qui vous attira dans la Revue des Deux Mondes, la plus ancienne revue d'Europe que vous avez acquise en 1991. Je l'ai connue pour l'avoir beaucoup lue dans mon enfance. Sous la couverture orange qui portait le sommaire, c'était alors un mouroir exquis où venait échouer en fin de vie tout ce que notre pays comptait d'ambassadeurs retirés, de politiciens de la quatrième, de gens de lettres qu'on n'appelait pas écrivains, de veuves de filles de. On y allait au bal avec Marcel Proust, on suivait l'Odyssée d'Isabeau Godin de la Godelinée à travers les Andes, on rêvassait dans la rubrique « Il y a 100 ans ». Nous étions alors sous le Second Empire. La revue est aujourd'hui alerte et pimpante. Elle a retrouvé ses couleurs d'origine, mais je regrette parfois les souvenirs mondains et les échos de la fête impériale. Pourquoi est-ce que tu t'y es attaché? Pourquoi, cher Marc, fais-tu tout cela? Pourquoi as-tu souhaité, aujourd'hui, être parmi nous? Je n'en sais rien et tu n'en parles pas. Et c'est très bien ainsi. Sans doute par fidélité à tous ceux dont tu es issu et que tu as amené subrepticement avec toi cet après-midi, par amour pour tes enfants dont tu as tant surveillé les progrès et l'éducation et pour leur dispenser un exemplum virtutis de plus. Sans doute pour t'inscrire à ton tour dans une lignée, celle de ceux qui, en France, patronnèrent les arts, de ceux qui te précédèrent à ce sixième fauteuil et dont j'énumère les noms comme une bienheureuse litanie. Le comte Turpin de Crissé, Georges Kastner, le comte Walewski, Charles Blanc, Edmond Dussommerard, Léon Heuzet, Paul Léon, Georges Wildenstein, René Duménil, notre très cher Gérald van der Kemp, qui tous firent tant pour les musées et pour l'histoire de l'art. Peut-être alors pourrions-nous partager la devise que, selon la tradition, j'ai fait graver sur mon épée. Elle reprend les paroles cruelles de Golo chez Maeterlinck, dresse un socle rigide sur lequel peuvent croître librement l'imagination et le désir, sonne à l'occasion comme un rappel, simplement parce que c'est l'usage. Dans une carrière officielle, la mienne sans doute plus que la tienne, les honneurs s'acceptent parce qu'ils sont dans l'ordre des choses. On prend et on dit merci, considérant qu'on montre plus d'ostentation à les mesurer ou à les refuser que de vanité à les recevoir. Et cela apaise toujours, quoi qu'on en dise, et même si on fait le fiero, un doute, une angoisse, une blessure. C'est là que nous en sommes maintenant, cher Marc. Comme dans toutes les occasions de cette vie qui nous voit si souvent face à face, côte à côte, si proches l'un de l'autre. Mais guindés dans notre bel habit chamarré, momentanément éloignés par la distance qu'induit l'officiel et l'académique. N'empêche que les mots restent les mêmes, qui sont d'amitié et d'admiration. Regarde. Regarde seulement autour de toi. Tu entres ici avec tous les tiens, avec tes ancêtres, avec ton père et ta mère, avec tes enfants, avec tous ceux qui t'aiment, avec tous ceux qui travaillent avec toi. Tu entres ici avec tout ce qui nous rapproche, avec le Louvre, avec l'amour de notre pays. Je te regarde avec l'œil de l'ami et de l'historien. L'ami voit en toi un soutien fidèle, et dans des moments qui ne furent pas toujours faciles. Un modèle aussi, par la liberté de penser et d'agir, par ton irrévérence toujours matinée d'habileté. L'historien, qui considère non seulement les œuvres et les artistes, mais encore le milieu qui les vit éclore, et tous ceux qu'au fil du temps il s'agrège, regarde intéressé l'acteur et le personnage. Et de toi, il ne peut dresser aujourd'hui qu'un portrait éclaté, inachevé, car tu es encore en devenir, multipliant les esquisses, les points de vue, déposant les couches successives, dissimulant, repeint et repenti.
Vous venez d'entendre le discours de M. Henri Loirette de l'Académie des Beaux-Arts, discours de réception pour M. Marc Ladret de la Charrière, élu membre de la section des membres libres au fauteuil précédemment occupé par Gérald van der Kamp. Comme il est d'usage, le nouvel académicien prononce l'éloge de son prédécesseur. Vous allez maintenant entendre l'éloge de Gérald van der Kamp prononcé par M. Marc Ladret de la Charrière. C'était sous la coupole le 25 janvier 2006.
Vous me faites l'immense honneur de m'accueillir aujourd'hui au sein de votre prestigieuse compagnie, issue des anciennes académies royales. Me feriez-vous aussi l'honneur, après avoir prononcé à mon égard des paroles si gentilles, si élogieuses et trop indulgentes, de m'accompagner à Versailles? Le chef-d'œuvre le plus digne, qu'il soit des Beaux-Arts et du classicisme français, où se donnaient rendez-vous nos plus grands architectes, nos plus grands peintres et sculpteurs. C'est l'un de vos anciens, Eugène Scribe, qui raconta l'anecdote qui suit le jour où il fut reçu ici même, sous la coupole. La République de Gênes y ont osé braver Louis XIV. Le doge fut forcé de venir à Versailles implorer la clémence du roi. Pendant qu'il admirait ses jardins, ses eaux jaillissantes, ses forêts d'orangers, ses terrasses suspendues dans les airs, on lui demanda ce qu'il trouvait de plus extraordinaire à Versailles. Et il répondit, ses demi-voix. Versailles, mais par où commencer? Notre guide suggère d'emblée le parc et les jardins. Images et reflets du château, il faut y avoir longtemps erré pour en comprendre la vraie nature et apprécier le charme de ses allées, de ses statues qui montent une garde éternelle, de ses bassins consacrés à la mythologie. C'est là, insiste notre guide, que le nôtre a réalisé son chef-d'œuvre et fait éclater son habileté. On peut dire que les jardins ont précédé le château et qu'ils ont engagé le destin de Versailles. Le guide, vous l'avez deviné, n'est autre que notre grand Gérald van der Kamp. On ne peut pas faire un pas à Versailles sans y voir l'empreinte de son passage. Gardien et ambassadeur, peintre et jardinier de Versailles, incarnation de la majesté et de la distinction, nommé conservateur en chef à 41 ans, celui qu'un chroniqueur du Figaro décrivit comme un colosse à l'échelle de la galerie des glaces, devait consacrer 35 années de son existence à ce palais qui résume à lui seul la mythologie de l'Ancien Régime. L'histoire de sa domination tient désormais aux légendes qui habitent ce château. Nous sommes sous la 4e République. Le 26 avril 1953, Charles Morichaud Beaupré, qui est alors le conservateur en chef du château, se tue dans un accident de voiture. Cet accident ouvre naturellement une succession et naturellement, les plus grands conservateurs français se bousculent pour avoir la place. Ils n'ignorent qu'un détail, mais capital celui-là, l'amitié qui lie Gérald van der Kamp à celui qui était déjà un très grand collectionneur, Daniel Wildenstein. Le décret de nomination du conservateur dépend de deux ministres, celui de l'Éducation nationale et celui des Beaux-Arts qui est sous sa tutelle. Le premier alors est André Marie, dont la longévité à la tête de l'Éducation nationale est exceptionnelle puisqu'il a pris ses fonctions au mois d'août 1951. Or, André-Marie est un très proche de Daniel Wildenstein, qui le juge comme l'un des hommes les plus cultivés et les plus courageux qu'il n'ait jamais connu. Laissons Daniel Wildenstein raconter la suite. Ce Normand, dit-il, en parlant de son ami ministre, était d'une drôlerie phénoménale. Raymonde, sa compagne, était une bonne copine à moi. Le soir, nous allions faire la fête ensemble. Au lendemain de la mort du conservateur, André-Marie demande soudain à son ami Wildenstein, « Dis donc, et toi, tu n'aurais pas une idée ?» Daniel en parle à son père, Georges, et puis vient l'inspiration du siècle. Cette inspiration, c'est Gérald von der Kemp. Mon Gérald, mais pourquoi ? Mais pourquoi lui ? D'abord, parce qu'il était déjà à Versailles. Ensuite, parce qu'il n'y avait personne d'autre que j'aimais comme lui. Depuis l'Institut d'art et d'archéologie, nous étions comme deux frères. Gérald était donc l'ami de Daniel. Gérald était charmant, superbe, irrésistible dans les salons et dans les soirées. Mais cela suffisait-il pour en faire un conservateur de Versailles ? Pour s'en convaincre, laissez-moi reprendre les choses par le début. Quand il naît, le 5 mai 1912, à Charenton-le-Pont, Gérald est tout à fait français, même si beaucoup de sang, hollandais ou américain, coule dans ses veines. S'il révèle très tôt ses dons artistiques, ce n'est pas à Paris, mais au lycée de Nantes, près duquel ses parents se sont déplacés et il se passionne pour la peinture et le dessin. Survient la crise financière de 1929. La famille est ruinée. Le voici donc qui repart seul à Paris à 17 ans, sans le moindre sou. Faire un peu de tout, comme on dit, un peu de caricature pour les journaux, un peu de décor de cinéma, une vague préparation aux Beaux-Arts. Deux années que les gens sérieux diraient pour rien. Moi, je ne le crois pas, car il se forme, il réfléchit sur sa vie. Et voilà, tout d'un coup, c'est décidé, ce sera l'aventure, la grande, la vraie. Il se fait affecter au 4e régiment de la Légion étrangère et embarque pour le Maroc. Découvre le Rif, découvre le sable, le désert, une humanité dure, violente et poétique. Et lorsque Yves Brayer le reçoit sous cette coupole, le 22 octobre 1969, le grand peintre lui dit « Cette expérience du désert et des hommes vous a marqué et vous a donné sans doute cette simplicité d'abord, ce sens du contact direct, qui sont deux de vos qualités foncières. » Au retour de ces années de la Légion, la vie normale recommence. Il s'inscrit pour faire des études à l'Institut d'art et d'archéologie de la Sorbonne et c'est là qu'il rencontre Daniel Wildenstein. Il suit les études du Louvre. Son ambition, devenir un artiste, mais un artiste cultivé. Son grand exemple n'est autre que Delacroix. À 24 ans, il obtient sa licence d'archéologie et son diplôme du Louvre. Il a travaillé dur, il a su se faire remarquer et un rendez-vous l'attend. Henri Verne, le directeur des musées nationaux qui a entendu parler de ses talents, l'a convoqué pour lui proposer le titre d'attaché indépendant du Louvre et un traitement de 800 francs par mois. Le Louvre et la fortune. Les dieux sont décidément avec lui et se précipite immédiatement à la coupole, celle de Montparnasse naturellement, mais c'est un signe du destin, pour y fêter cette entrée dans la vie en commandant une langouste. Gérald van der Kemp va enfin pouvoir savourer ses fonctions de chargé de mission au département des dessins et des gravures du Louvre. Et voilà comment nous dit son biographe, Franck Ferrand, un jeune homme sensible et passionné, au sortir d'une enfance étrange et d'une jeunesse éprouvante, pénètre, presque à regret et comme à reculons, dans une galaxie, celle des musées, et sur une planète, celle du Louvre, monsieur, dont personne n'a pu ressortir inchangé. Comment lui-même va-t-il en sortir ? Sa première mission consiste à dresser l'inventaire et le catalogue de la collection Rothschild, celui qui lui donne à l'époque les clés du Louvre. Il rêve aussi de peindre, de se promener, de séduire. Mais malheureusement, la guerre est là. Il est prié de rejoindre son régiment de chars. Que vont devenir les trésors dont il a fait l'inventaire ? On les a soigneusement emballés et ils ont pris la route de la province où ils vont trouver refuge. La Vénus de Milo, le gladiateur Borghese, les collections du musée Camondo, de Guimet, de Cognacq-Gé, celles des Rothschild, celles des David Weil, sont finalement déposées en sécurité au château de Valençay, dans l'Indre, dans la propriété du duc du même nom. Pendant ce temps, notre soldat est bien loin de tout ça. Sur les champs de bataille du Nord, où l'on attend l'assaut foudroyant de l'armée allemande, il en réchappe. Il traverse la Manche. Il revient se battre. Il est fait prisonnier en Normandie. Il s'évade de nouveau le 30 juin 1940 et finit par rejoindre à pied, malgré des blessures aux jambes, ses collections de Valençay. Le jeune Van der Kemp demeura ainsi quatre années et demie à Valençay auprès du plus beau patrimoine artistique. De ces années-là, celles de ses 30 ans, il garde 1000 souvenirs de travail, de lecture, d'éducation, mais aussi une inguérissable blessure et un cauchemar à vous réveiller la nuit. La blessure, c'est la mort de sa fille Florence à l'âge de 2 ans. Le cauchemar, il date du 16 septembre 1944, quand le château de Valençay est envahi par une compagnie de SS, et pas la plus mauvaise, la compagnie SS de la division Das Reich, qui remonte d'Oradour et de Tulle. Des combats ont eu lieu dans la région. Les propriétaires du château ont été dénoncés et notre chargé de mission accusé d'avoir enterré les soldats allemands. On se saisit de lui. On le conduit devant un mur pour y être exécuté. On aligne un peloton. Il fait face sans se démonter. Fleur à la boutonnière, canne à la main et chaussures cirées. Car aucune duchesse, avait-il retenu, ne vous prendra au sérieux si vous portez des chaussures imparfaitement cirées. Mais ici, pas de duchesse. Ce sont deux capitaines SS qui encadrent le peloton. Ils demandent à leur parler. On va vite chercher un interprète. Je lui dis que je suis le gardien des trésors du Louvre. Le capitaine SS lui répond qu'on n'est pas là pour faire l'histoire de l'art, mais la guerre. Alors, comment sauver la situation ? Je dis à l'interprète de préciser aux deux capitaines SS que certes, ils pouvaient me tuer, mais qu'ils seraient fusillés sur le champ à leur tour. Car si ces trésors étaient en France, c'est parce que Mussolini et Hitler voulaient se les partager et qu'ils lui avaient demandé de les garder jusqu'à les victoires finales pour les partager. Monsieur, les deux capitaines SS l'ont cru. Tout Gerald van der Kemp est là, dans cette scène de tragicomédie, son sang-froid, sa hauteur, son sens incroyable de la persuasion, élevé au rang de grand art. Qui pourra résister demain quand ces deux-là y ont cédé ? Cela lui vaudra une magnifique citation dans l'ordre de la Légion d'honneur à titre militaire. La France libérée, les collections sauvées, encore faut-il les ramener à Paris. Il en est chargé. Il allait convoyer les plus belles œuvres du Louvre. C'est ainsi qu'il couchait tous les soirs auprès de Mona Lisa. Un an plus tard, Jacques Jaujard, devenu directeur des arts et des lettres, le récompense en le nommant conservateur adjoint, ou à Versailles, où notre héros fait son entrée pour la première fois en octobre 1945. Il était donc dans la place depuis près de 8 ans lorsque son ami, son frère Daniel Wallenstein, parvient à inscrire son nom dans le cerveau du ministre de l'Éducation nationale, André Marie. Mais le ministre ne signait toujours pas le décret de nomination. Alors, raconte Daniel, un matin, j'ai dit à Raymonde, sa compagne, « Raymonde, ça urge !» Elle a éclaté de rire et Raymonde a fait le nécessaire. André Marie a signé le lendemain, André Cornu a signé aussi. Il était temps parce que le surlendemain, le ministre Marie n'était plus ministre. Dès lors, le voilà, le voici, conservateur en chef, chef et conservateur. Conservateur, il l'est par respect de ce qui existe plus que par opposition à la nouveauté. Chef, seul maître à bord, il entend l'être pour avoir les mains libres puisqu'il veut faire revivre le mythe de Versailles. Quand il arrive à Versailles, et pour reprendre ses propres mots, Versailles est dégoûtant, vide, mort. J'ai voulu qu'il redevienne vivant, beau à regarder, ce qu'il était du temps du roi, le symbole de l'élégance française, le symbole du raffinement et du goût. On a commencé par le souvenir le plus émouvant du château. Et le plus tragique, Marie-Antoinette. Au premier étage, l'appartement de la reine donne au midi, entre le salon de la paix, puis prolonge la galerie des glaces, et le grand cabinet. Cette chambre avait perdu au 19e l'essentiel de son décor mural. Dès 49, elle est restaurée dans son état ancien, la cheminée et les boiseries sont retrouvées, le syndicat des soieries de Lyon fait don du dernier meuble d'été, celui qui était en place le 6 octobre 1789, quand le roi, la reine, quitte le palais pour ne plus y revenir. Il faut donc tout reprendre, faire renaître les métiers, développer l'artisanat et les spécialités, tapissier, ébéniste, menuisier, doreur, sculpteur, argenteur, créer un grand service d'archives microfilmées. Et surtout, il y a les toits qui n'attendent pas. La ruine de Versailles nous menace, avait dit son prédécesseur. Les bassins ne gardent plus l'eau, les arbres menacent les statues, les murs se désagrègent. Dans les appartements, on ne pouvait lever les yeux sans voir des crevasses et des traces d'infiltration. Tout refaire, certes, mais avec quel argent ? Car, déjà, l'État en manquait. Il était déjà pauvre, l'État. Et ce sera le secret et le talent de notre conservateur de savoir le trouver. C'est même toute une science. La France, explique-t-il à Villalonga, possède 4 grandes locomotives qui continuent à fasciner les gens. Versailles, Madame de Pompadour, Marie-Antoinette et Napoléon. Sur ces noms-là, on peut toujours trouver Monsieur de l'Argent. Mes amis, donne les yeux fermés. mes amis américains, anglais, brésiliens, les grandes fortunes internationales, les Mary Lasker, les Dillon, les Rockefeller, Barbara Hutton et aussi les David Veil, Paul-Louis Veller. Encore faut-il restaurer la fascination de Versailles. La chance est avec lui. L'été de sa prise de fonction, Sacha Guitry tourne pendant 2 mois, du 6 juillet au 6 septembre 1953, « Si Versailles m'était compté », dont il offre une partie des droits à la sauvegarde du château. Ce film lance une mode qui ne se démodera jamais. Tout le monde voudra désormais voir et être vu à Versailles. Le président de la République y accueille la jeune reine Élisabeth. Le général de Gaulle y reçoit les Kennedy au cours d'un dîner fastueux. Le Shah d'Iran, Nikita Khrouchtchev voudront le visiter. Gérald van der Kem en fait les honneurs. Et de plus, il a un puissant allié, André Malraux. Et il arrive, exploit suprême, à convaincre Michel Debré, qui est alors Premier ministre, de signer un décret historique qui oblige toutes les collections nationales à être restituées à Versailles, tout ce qui appartenait à Versailles et qui fut dispersé pendant les années de la Révolution. Ainsi, notre conservateur obtient la restitution par le Louvre, monsieur, de l'une de ses plus belles toiles de Véronèse, le repas chez Simon, offerte par la République de Venise au roi et qui reprend sa place dans le salon d'Hercule. J'ai reçu à Versailles, dit-il, toutes les têtes couronnées du monde et tous les grands chefs politiques. Et comme la France veut faire encore mieux pour accueillir ses hôtes chefs d'État étrangers, il est chargé par Malraux, à la demande du général, de remettre en état le Grand Trianon dans son style empire, ce qu'il réalise entre 1963 et 1966. 2 ans plus tard, et pour consacrer sa réussite, malgré les polémiques et les jalousies qui se sont naturellement provoquées, votre illustre académie, monsieur, l'élit à 56 ans au fauteuil de René Duménil. Son comité d'honneur, présidé par Pierre-David Veil, compte aussi bien son cher André Cornu, l'ancien ministre, Louise de Villemorin, qui l'a présenté à Malraux, Marcel Achard ou René Clair. Sur son épée sont gravés 3 symboles qui illustrent sa vie, un taureau, son signal astral, un hibou pour représenter la sagesse et naturellement une silhouette pour rappeler son goût pour les femmes. Dans son château, dira Daniel Wittgenstein, Montgérald aura fait revenir des tableaux et des meubles d'époque. Mais pas seulement, il a été l'homme des grands travaux. Il avait commencé par la chambre de la reine, il a poursuivi par la chambre du roi, la bibliothèque de Louis XVI, le salon des Jeux du roi, les appartements de Madame du Barry, etc., etc. Mais comment achever, comment pourrait-il achever sa mission autrement qu'en beauté? Par cette galerie des glaces, où Louis XIV reçut les ambassadeurs de Perse et du Siam, où Louis XV reçut l'envoyé spécial du Grand Turc, où Napoléon III, la reine Victoria, avant que Guillaume Ier ne s'y fasse proclamer empereur et que la paix n'y soit signée en 1919 pour seulement 20 ans. Il donna une soirée éblouissante dont il avait confié le comité de parrainage à Marie-Hélène de Rothschild. Il réunit ainsi 250 000 dollars qui furent l'amorce d'un extraordinaire mécénat, lequel deviendrait permanent. L'inauguration de la Galerie des Glaces, rendue à sa splendeur d'origine, eut lieu le 9 juin 1980 en présence du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. La fête fut magnifique, mais Gérald van der Kemp avait l'âme en peine, car il avait 68 ans. Le cœur serré sur ce long passé, il fallait bien se résoudre à quitter l'appartement des gardes françaises qu'il avait occupé pendant 27 ans. Mais il n'aurait jamais pu partir sans honorer celle qu'il avait accompagnée durant toutes ces années, celle sur qui il s'était toujours reposé, celle qui avait été la maîtresse de la maison, qui avait organisé dîners intimes et officiels, les plus belles fêtes et les plus élégants galas. Florence, sa femme, la fille de l'amiral Harris, rencontrée en 1958, retrouvée en 1961, épousée en 1963, après s'être séparée de mari. Il prit donc par le bras Madame van der Kemp, l'emmena dans la salle du sacre, se plaça au pied de l'imposante toile de David, représentant l'empereur couronnant l'impératrice Joséphine. Et là, notre grand Gérald décora sa femme des insignes de la Légion d'honneur pour tant d'éminents services rendus à Versailles, pour tant de grâce et tant de bonheur. Depuis 3 ans, il avait été nommé à Giverny, propriété monsieur de votre académie. On comptait sur lui pour y récidiver naturellement ce qu'il avait si bien réussi à Versailles. Giverny, c'est Sacha Guitry qui a raconté que lorsque les Allemands, encore eux, demandèrent l'armistice, mais cette fois-ci en novembre 1918, Clémenceau décida sur le champ d'aller voir Foch, bien sûr, mais pria son chauffeur de passer par Giverny, parce que Giverny, c'était la maison de son plus grand ami, Claude Monet, c'était l'étang fleuri de Nymphéas, le pont de bois jeté sur cet étang. Un autre chef-d'œuvre. Gérald van der Kemp va donc une fois de plus rendre au lieu sa splendeur. Ainsi, pour lui aussi, cette longue traversée de l'histoire, qui commence cette histoire de l'art, qui commence dans le jardin de Versailles, se poursuit dans celui de Giverny. Il s'y dévoua pendant plus de 20 ans, avec un enthousiasme de jeune homme, avec à ses côtés son épouse Florence, qui avait été à l'origine de la création de la Versailles Foundation et qui partageait son désir de sauver et sauvegarder le patrimoine français. Gérald van der Kemp eut d'ailleurs le plaisir infini de l'avoir élu en 1989 à titre de correspondant étranger au sein de votre compagnie, laquelle la sollicita en 2002 afin de poursuivre avec sa simplicité et sa générosité la mission qui avait été celle de son mari, chez Claude Monet. Malheureusement, Florence van der Kemp est aujourd'hui alitée, immobilisée, dans sa résidence au Mexique et n'a pu être parmi nous. Mais permettez-moi à distance de rendre hommage à celle qui, avec son mari, a pu et a voulu placer sa vie au service des arts. Il est un âge où ce n'est plus pour soi que l'on plante des jardins. Aurait dit Louis XIV, cité par Éric Orsenna. Il y avait déjà quelques années que Gérald van der Kemp s'était imprégné de cette vieille vérité. Quand le 20 décembre 2001, il quitta nos jardins terrestres pour ceux du ciel. Toujours une fleur à la boutonnière, une main largement tendue, un sourire chaleureux, a écrit de son collègue de l'Institut, mon ami André Bettencourt. Nous allions naturellement vers lui parce qu'il était optimiste, bienveillant, attentif. Gérald van der Kemp fut à la fois un véritable précurseur du mécénat moderne et l'un des derniers témoins de l'élégance et du raffinement d'un monde aujourd'hui évanoui, je dirais hélas. Dans l'écho des salons de Louise de Villemorin, il a su incarner une joie de vivre, mêlée à un dandysme brillant, placé au service exclusif des arts. Mais il fut aussi le promoteur actif et ingénieux d'un mécénat moderne, inspiré du modèle américain. L'argent public étant rare, il s'est employé avec ardeur et succès à convaincre les grands collectionneurs du monde entier de l'absolue nécessité de soutenir et de financer la restauration et la préservation des chefs-d'œuvre de notre patrimoine. Permettez-moi d'ajouter un dernier mot pour revenir à notre jardinier, à André Lenôtre. Un jour que celui-ci accompagnait Louis XIV à Versailles, suivi par Mansart, il fit cette remarque en s'adressant au roi. « Sire, en vérité, mon bonhomme de père ouvrirait de grands yeux s'il me voyait dans un char auprès du plus grand roi de la terre. Il faut avouer que votre majesté traite bien son maçon et son jardinier. Je crois pouvoir être mon interprète, monsieur, votre interprète, en disant que Gérald van der Kemp s'en est sûrement allé lui aussi en empruntant le char du roi sans s'éloigner du plus beau palais du monde. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre les deux discours prononcés à l'Académie des Beaux-Arts sous la coupole le mercredi 25 janvier 2006 à l'occasion de la réception du nouvel académicien, M. Marc Ladret de La Charrière.